Éric Auziel, lui, est capable de tout. Collaborateur à tous les jeudis. Bonjour, Éric.
Tony, comment ça va?
Ça va très bien. Hey, ça a l'air que tu travailles aujourd'hui?
Moi, je suis sur un plateau de tournage et j'ai demandé aux producteurs et aux réalisateurs, écoute, je travaille avec Tony Marinaro, j'ai besoin de 20-25 minutes. Je peux aller dans ma loge pour faire mon segment. Ils m'ont dit, Tony, oui, pas de problème.
Fait que
j'ai
non,
une faveur spéciale. C'est pour ça que les gens qui regardent sur YouTube, je suis avec un veston cravate, je suis en personnage, Tony.
Ouais.
Mais c'est pas comme ça que je m'habille tous les jours. Là.
Non, mais...
J'ai pas ce budget-là.
je te remercie d'avoir dit ça, mais je suis sûr que quand t'as dit, là, je fais une émission avec Tony Marinaro, il t'a dit Tony, qui je le connais pas, jamais entendu
non,
parler de ce gars-là. Maintenant,
attends une minute, parenthèse, sincèrement, là, je suis arrivé la première journée de tournage, tous les techniciens, les réalisateurs, le producteur me parlait de BPM Sport, comment qu'il écoute ton show. Arrête!
C'est cool.
Le jeu, c'est la tête de mes enfants.
Hey, je te regarde à l'écran, là. Je te regarde à l'écran, comment t'es avec ton sou.
Beau bonhomme, hein?
Hey, t'as l'air de Sergio Castellito quand il a fait Mafia Inc. Il te manque juste le moustache, là.
Écoute, je sais pas de quoi j'ai l'air.
Est-ce que t'as le droit de nous dire si tu travailles sur quoi?
Oui, j'ai le droit. Ça s'appelle une nouvelle série qui va être dans le monde des bombes et des explosifs avec la police. Et ça se nomme Dernière Seconde. Ça va être toute une série. Je te le dis, là, c'est magique ce qui se passe présentement sur le plateau. Je peux pas en dire plus, mais ça s'appelle Dernière Seconde. Puis ça va être, je pense, en mars que les gens vont pouvoir voir.
Ah,
c'est une série de 10 épisodes.
J'ai tellement hâte de voir ça. Éric, quoi le sujet aujourd'hui?
Écoute, il y a plein de sujets. Premièrement, tu parlais de Demidov. Je ne sais pas si tu as vu hier soir Michkov avec son Michigan qui a essayé.
Oui.
Ça va pas bien à Philadelphie. Je ne sais pas si Tortorella va être le premier congédié. Je ne sais pas que c'est ça qui va arriver. Bonne nouvelle, c'est que les Capitals, c'est l'équipe de l'heure présentement dans la Ligue nationale. Mais tu sais, j'en parlais plus tôt avec Greg Langto il y a quelques semaines. Michkov, là, ça va être le meilleur puis ça va être le pire. Puis comment ça va se passer avec Tortorella? J'ai hâte de voir ça dans les prochaines semaines. Surtout si lui compte des buts, mais l'équipe perd.
Oui, c'est ça. Puis, écoute, lui, il joue bien, mais encore une fois, tu sais, même si c'est lui que je voulais que le Canadien le pêche, il y a des flashs où est-ce que tu vois qu'il joue pour lui, mais il y a du flash où est-ce que tu vois qu'il joue pour l'équipe, mais par contre, on sait que Tortorella peut avoir des sautes d'humeur, et là, les choses vont vraiment mal pour les Flyers, là. Ils vont vraiment mal pour les Flyers. Il me semble, j'avais parlé du Canadien qui ont donné 1000 buts. Il me semble que les Flyers, ils ont donné 1000 buts aussi à date. Là. C'est incroyable.
Écoute, t'essayes pas ce qu'il a essayé quand l'équipe traverse une mauvaise période. T'essayes pas ça. Surtout pas avec un coach comme Tortorella. Ceci dit, la saison est jeune pour les Canadiens, mais est encore jeune pour les Flyers. Mais il doit y avoir un petit drapeau rouge qui se lève du côté des Flyers. Pas à cause de Michkov principalement. Mais je le répète, Keith Jones... Daniel Brière n'ont pas engagé John Tortorella.
Non, c'est
ils
pas leur
ambition. Ils ont hérité John Tortorella.
Oui.
Éventuellement, je ne sais pas ce qui va se passer. Puis je voulais faire un petit suivi par rapport à ce que la MLS est en train de faire comme sondage. Je trouve, Tony, que c'est une excellente idée et c'est la chose à faire. Parce que présentement, là, dans les prochaines semaines, là, ça va être les journées les plus occupées dans le sport en Amérique du Nord. La NFL, la NCAA, la Ligue nationale, les séries mondiales de baseball, la NBA, OK? Il y a tellement de sports. Puis là, il va y avoir la MLS qui va arriver avec ta finale. Ça va être dilué dans tout ça. Et moi, je pense que le calendrier qu'ils sont en train d'envisager après la Coupe du Monde, c'est logique pour les transferts aussi. Les transferts du mois de juillet et du mois d'août, pardon, les transferts au mois de janvier, c'est très logique. La MLS s'aligne avec tout ce qui passe dans la planète football, la planète soccer.
Oui.
C'est super logique. Puis oui, le froid au mois de décembre, hey, on a des games de football à Green Bay au mois de janvier puis au mois de décembre. On a des games de football dans la neige. Je sais que le soccer puis le football, c'est pas la même chose, mais dans le scénario proposé, il y a une pause en janvier et février, on recommence en mars. Le CF Montréal pourrait jouer sur la route. C'est 2-3 matchs en décembre, puis 2-3 matchs au mois de mars. Puis après ça, il n'y en a pas de problème. On peut arranger
ça,
le terrain sur le
printemps. Ouais, c'est intéressant ton commentaire sur les transferts, Éric. Je vais te le dire pourquoi, OK? Actuellement, la MLS, les camps d'entraînement commencent au mois de janvier.
Ouais.
Les saisons commencent vers la fin février.
Mm.
Et ils vont finir au mois de décembre. Mais en Europe, comme on sait, les saisons, ils vont commencer le mois d'août.
Deuxième, troisième d'août.
Et c'est exactement ça. Et là, ils vont finir le mois de mai, vers la fin mai, OK?
Ouais.
Si la MLS continue avec son calendrier, s'il y a un joueur en Europe qui est un bon joueur qui s'engage, disons, pour un an avec un club, lui, ce joueur-là, sa saison finit le mois de juillet. OK? Mm. Il finit le mois de juillet, ce joueur-là. Et là, tu peux te joindre à la MLS au mois d'août. Oui, tu peux le faire. Mais je te donne un exemple. Un joueur qui veut aller en essai, il n'est pas sûr s'il va faire l'équipe, lui, il ne pourrait pas quitter son équipe au mois de janvier dans la saison pour assister à un camp d'entraînement. Et s'il est libéré, il peut y aller nulle part. Il ne peut pas retourner à son ancien club. Donc, pour aligner le tout et les dates, ça fait du bon sens. Par contre, encore une fois, il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire, là, mais là, moi, j'aime ça y aller au stade durant le mois de juin. Moi, j'aime ça y aller au stade durant le mois de juillet. J'aime ça être à l'extérieur au stade Saputo ces mois-là. Il y en a qui ne vont pas aimer.
Oui, mais Tony, premièrement, il n'y a rien de parfait. Il va y avoir des défis à peu importe la décision qu'ils vont prendre. Ils ont déjà envisagé de le faire en 2014, puis ils ont dit « OK, non, on ne le fera pas ». Tu penses qu'il n'y a pas des gens qui, à Madrid, à Barcelone, à Naples, à Manchester, qui n'aimeraient pas aller voir du football au mois de juin et au mois de juillet? C'est la même chose. Aux autres aussi, il y a des vacances en Europe.
Oui.
Il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a trop de sports au mois d'octobre, au mois de septembre, au mois d'octobre, en Amérique du Nord. Puis la MLS, là, je trouve que c'est intelligent ce qu'ils veulent faire. Ils veulent devenir on parle des 4-5 ligues importantes en Angleterre, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Puis la MLS veut compétitionner avec ces ligues-là. Puis elle a raison d'essayer de compétitionner. Pas à court terme, mais à moyen et long terme, c'est important. Et ils doivent penser à long terme. Fait que oui, on ne verrait pas le CF Montréal au mois de décembre à Montréal parce que c'est un défi, puis on ne les verrait pas au mois de février. Who cares, Tony? Who cares? Pas grave, il faut aller jouer sur la route de toute façon. Fait que prenons cette décision-là en 2026. En plus, c'est tout de suite après la Coupe du Monde. C'est parfait. Le momentum pour la MLS là, doit profiter de la Coupe du Monde en Amérique du Nord pour dire, hey, nous autres, puis la fameuse nouvelle League's Cup, là, ben c'est ça. Elle sera en janvier, puis en février, en Californie, au Texas, en Floride. Et ça serait parfait. Et ça donnerait exactement ce dont le soccer en Amérique du Nord a besoin, de devenir officiellement une des 5 grandes ligues avec le baseball, le basketball, le hockey, le football. Alors, moi, je trouve, je sais pas si ça va se faire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Et oui, c'est sûr que j'irai pas au Stade Saputo au mois de juillet. C'est pas grave, mais il y a tellement de sports au mois d'octobre. Ouais. C'est dilué.
Non, écoute, pour moi, l'idée, il est pas fou. Parce qu'il y en a qui disent, ben, l'idée est fou. Pour moi, l'idée, il est pas fou. Par contre, on peut aussi dire, parce que je pense qu'il y a des pour et des contre, là, on peut aussi dire que si la Ligue nationale de hockey ne joue pas durant le mois de la fin juillet, la fin juin, ni le mois de juillet, il n'y a pas de basket à la fin juin, ni le mois de juillet, il n'y a pas de football vers la fin juin ou le mois de juillet, ce ne serait pas le bon moment pour que la MLS joue quand les autres ne jouent pas.
Non, Tony, parce que le but de ce sondage et cette idée, c'est que le moment le plus important pour la MLS, c'est les séries. Et les séries auraient lieu au mois de mai. C'est quoi le mois de mai? Les séries du hockey commencent. Les séries de l'NBA commencent. Le baseball majeur commence. Il n'y a pas de NFL, même si NFL, c'est 12 mois par année. C'est que c'est le meilleur moment pour aller chercher de la visibilité. C'est le meilleur moment pour négocier pour la MLS des meilleurs commanditaires. Encore un plus gros contrat avec peu importe le diffuseur qui sera à ce moment-là. Fait que moi, je trouve que c'est ça l'idée. Moi, je te donne, moi, je suis juste le messager, Tony. C'est ça l'idée que la MLS a, c'est les séries au mois d'octobre, pour la MLS, c'est dilué. Oui, pour nous, à Montréal, on aurait aimé ça avoir Messi, mais là, on l'a pas. Puis je te dirais que moi, la MLS se bat présentement contre le football, contre le baseball. Oublie ça, là, ils arriveront pas premiers à part quelques marchés.
Merci, Eric.
Tony, t'as la bouche pleine, là. Pâtisserie de Ville LaSalle. Éric, t'as-tu déjà goûté à ça?
Oui, pâtisserie malheureusement, trop souvent.
Tony est arrivé avec deux énormes boîtes ce matin.
Ouais.
C'est incroyable. Il rentre dans le studio, puis il me pointe, il dit parle, parce qu'il est en train de finir sa bouche.
Il fallait que je prenne un peu d'eau.
C'est un gars généreux. D'ailleurs, Tony, les producteurs ici sont en train de penser à une idée de faire une série sur toi. Ça va s'intituler « Le gars de chez nous qui va chez vous ».
Ah, wow, OK. Wow, ça serait quelque chose. Hey, pourrais-tu avoir un... J'ai toujours rêvé à faire partie d'une télésérie ou un film ou quelque chose. Penses-tu qu'il y a des chances si je parle 100 livres ou quelque chose? Oui.
T'as pas besoin. Hey, me change rien, forme. Tony. It's all perfect. Change rien. Non, t'as pas rien. C'est parfait.
OK. Merci, Eric. Eric, le jour, t'as dit, tu veux parler de l'erreur de Martin Saint-Louis.
Oui. Puis là, cette chronique-là, là, ce segment-là aurait pu être fait les premiers jours de l'embauche de Martin Saint-Louis. Ça n'a rien à voir avec le début de saison du Canadien. Et je veux qu'on m'entende, là. Je suis pas en train de dire que Martin Saint-Louis devrait être congédié. C'est pas ça, là. Je veux pas avoir de grand titre qui dit Éric remet en question Martin Saint-Louis. Pas du tout. Je veux faire un parallèle avec une situation, pas avec la personne. Martin et Mario Tremblay quand c'est arrivé Canadien de Montréal. Je compare pas Martin et Mario, c'est pas ça que je fais. La situation. Kent Hughes, il adore Martin Saint-Louis. Réjean Houle, il adorait Mario Tremblay. Ils ont mis ces gars-là en poste et pense que Kent Hughes a fait la bonne décision. L'erreur, c'est de pas l'encadrer et de pas avoir encadré Mario non plus avec des coachs d'expérience qui ont été testés, des coachs en chef. Mario avait Yvan Cournoyer, Steve Shaw. Laperrière, c'était un bon coach, mais c'était un gars qui avait jamais été en chef. Et de plus en plus, ce qu'on voit, là, c'est des coachs qui sont entourés de gars qui ont été déjà en chef, qui ont coaché des professionnels, des adultes. Il y a des super bons gars avec lui, Martin, là, les Tasky, Robida, c'est des super bons gars. Le nouveau Roger Rio. Mais c'est des gars qui ont coaché soit NCAA, junior majeur ou midget. Tu comprends? C'est pas des gars qui ont été en chef avec des adultes, des professionnels. C'est pas la même dynamique. Martin aurait besoin d'un gars d'expérience qui va lui dire, Martin, ça, c'est le piège. Regarde, on est en avion, là. Ça, c'est le piège, Martin. Ça, parce que Martin, là, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, mais comment obtenir ça de ces gars-là? Puis je faisais la liste, là, t'as une dizaine de gars qui sont là depuis le début avec Martin. C'est le même discours qu'ils entendent, là. Fait qu'à un moment donné, ils se disent, OK, what's new? Alors, t'as besoin d'un gars qui a été testé, qui a déjà été en chef, et je pense que Kent Hughes aurait dû dire à Martin, il a fait la même erreur que Dominique Ducharme. Va chercher un gars qui a l'expérience en chef pour pouvoir te dire ça, fais attention, Martin. OK? Ça, c'est mon opinion. Ça, pis, mais je... là, il est en train d'apprendre sur le tas, là.
Oui, mais pensez-y à quelque chose, Eric, OK? Disons, puis c'est un point intéressant, on a déjà... OK, je suis convaincu que Martin, il a besoin de l'aide, puis il a besoin d'un tacticien défensif à côté de lui. Moi, je suis convaincu, d'accord? Par contre, quand le Canadien a engagé Martin Saint-Louis comme coach intérim, t'en souviens la réaction? Hein? Coach de Pee-Wee, coach de Bantam, coach de
oui,
il n'est pas prêt. Il a eu un job parce que son nom, c'est Martin Saint-Louis, puis il a eu un job parce qu'il connaît Hughes puis Gorton, ces choses-là.
Oui.
Imagine si le Canadien l'aurait entouré avec un entraîneur d'expérience qui avait 10 ans d'expérience dans la ligue, qui était connu pour être vraiment un bon tacticien, qui était connu pour être vraiment un bon associé. S'ils auraient fait ça, qu'est-ce que le monde aurait dit?
Non.
Le vrai coach, c'est lui,
non. Mais
on lui donne pas le titre parce que Martin, c'est le gars de chez nous puis c'est le Québécois. C'est ça. Comment? Des gens auraient dit ça. Ils ont dit la même chose de Dave King quand il était avec Alain Vigneault. Là. Quand Alain Vigneault coachait le Canadien, là, tout le monde disait que le coach était Dave King. Là.
Ouais. Martin Saint-Louis, c'était un gars tellement intelligent, c'était un gars tellement bon avec les médias, c'était un gars que les jeunes, les joueurs, c'était une de leurs idoles. Les gars auraient ont du respect pour Martin Saint-Louis, mais après un certain temps, les gars, là, c'est des PME. Les autres, ils se disent, bon, ben, OK, là, moi, là, c'est quoi que tu peux amener pour moi? Qu'est-ce que tu peux faire pour me rendre meilleur? Mais là où je suis en désaccord avec toi, Tony, c'est qu'on le savait depuis le jour 1 que Kent Hughes, là, il l'a nommé comme intérim, là, mais que c'était son homme. Jeff Gorton et Martin Saint-Louis avaient trop de liens avec Martin pour lui dire, viens juste par intérim, on va voir. Martin, il n'aurait jamais accepté cette situation-là. Jamais de se déraciner de sa famille, de ses enfants, puis de dire, je m'en viens ici pour intérim, je vais avoir une garantie, on ne l'annoncera pas. Fait que, tu sais, il a tellement une présence importante, Martin, qu'il n'y avait pas de doute. Et même si les gens auraient pensé ça, pas grave. Hughes et Gorton sont tellement intelligents, mais ils aiment tellement Martin, ils aiment trop Martin, ils devraient lui dire, Martin, on va aller chercher. Tu sais, le Griot qui ont été cherchés, c'est un gars de NCAA. Il n'a jamais travaillé avec des adultes de la Ligue nationale. c'est pas la même bibitte. Déjà, au moins, Alex Burrows avait fait 3 ans avec le Rocket. C'était des professionnels. Tu coaches pas des gars juniors, des gars de 19 ans, 20 ans, 21 ans, comme tu coaches des gars de 27, 28 ans. Tu sais, Gallagher, là, il s'est demandé, puis je pense que c'est toi qui en as parlé, pourquoi c'est pas moi qui est allé sur le premier trio? C'est sûr que c'est posé la question. C'est sûr. Puis lui, il y a un 2 ou 3 chums dans le vestiaire. Mais peut-être qu'un gars d'expérience, il a dit, hey, attends une minute, là, Gallagher, là, il joue vraiment très bien. Pendant que Slav est absent, c'est peut-être lui qui devrait aller là. Parce que les gars dans le vestiaire, ils vont parler. Tu comprends-tu?
Ouais.
Alors, c'est des petites choses que pour moi, c'est pas dramatique. Ça vaut pas la peine de commencer à remettre en question Martin Saint-Louis, l'un de là. Mais tu deviens un meneur d'hommes, comment? Tu deviens avec de l'expérience et quand tu acceptes d'être bien entouré. Et c'est la nouvelle tendance, Tony. Tous les coachs en chef dans la NFL ont des coordonnateurs offensifs ou défensifs qui ont été en chef principalement pendant 5, 6, 7 ans.
Ouais.
C'est des gars d'expérience. Et ça se fait de plus en plus dans le hockey aussi.
Mais ça prend toujours un coach qui est bien dans sa peau, qui a beaucoup de sécurité pour s'entourer de quelqu'un qui est un vétéran comme ça. Je te dis pas que Martin Saint-Louis, il n'y en a pas, parce qu'évidemment, il y en a. Là. Je pense pas que Martin Saint-Louis ait des complexes d'infériorité par sa personne. Là. Il est incroyable. Mais c'est intéressant comme sujet. Puis moi, je serais pas surpris que ça va être la dernière année que Martin aurait pas un tacticien à côté de lui. Un de mes collègues hier a mentionné comme quoi, sois pas surpris si Martin Saint-Louis va donner sa démission durant la saison. Moi, je vais te donner mon opinion là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Éric Auziel, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Puis,
merci, Tony.
Bon travail
puis,
aujourd'hui, Éric.
Merci beaucoup, comme d'habitude. Salut à tout le monde. Merci beaucoup.
Salut,
je retourne à ma job à temps partiel, acteur.
Le voilà. Il est tout un acteur. Éric Auziel. Templeton!